Radio Barque, deuxième partie, nous nous retrouvons, Michel, alors après un député, pour parler d'un sénateur, c'est dans la lignée, si je puis dire, et oui. Mais un sénateur que tu qualifies de maton, de super maton, alors explique quand même.
Oui, parce que, très franchement, j'ai beaucoup ri en lisant l'article de l'Indépendant, je crois. Deux articles, pas un seul, deux. Hein, une publicité bon, envers ce sénateur qui quasi est très suspect quand même. Enfin bon, passons. Hein. J'ai beaucoup ri pourquoi. Voilà un sénateur, Monsieur Courteau, hein, sénateur socialiste, hein, qui, en tout cas à la lecture de ces articles de presse, est présenté comme presque le conseiller de Madame la chancelière, Madame Nicole Belloutet. Il dit qu'il a un accès direct avec elle.
Ministre de la Justice.
Ministre de la Justice. Et deux qui se proposent d'être le commercial de son ministère pour trouver, en fait, une localisation qui conviendra à tout le monde, et à lui en particulier, pour une future prison dont j'ai souvent dit ici, en fait, je vais me répéter encore une fois, qu'elle n'avait jamais été programmée par le gouvernement précédent pour être réalisée dans la première tranche, mais qu'elle était probablement pour la deuxième ou la troisième, c'est-à-dire pour les 40 REC.
Or, pourtant, ça fait déjà un certain temps qu'on en parle.
Franchement, non. Alors, Monsieur Courteau, sénateur socialiste, qui passe son temps avec son parti à critiquer la politique ultralibérale du gouvernement Macron, hein, et qui nous explique dans l'Indépendant, qui est en contact direct avec la ministre de la Justice, et qui est tellement en direct d'ailleurs qu'il se propose d'être celui qui trouvera une solution pour trouver un emplacement sur l'arrondissement de Narbonne. Non mais attends, Monsieur Courteau, en fait, souffre d'amnésie, en fait, politique, ou est-il vraiment si près qu'il le prétend de ce gouvernement de marcheurs dont il dit qu'il pique pendre pratiquement avec son parti tous les jours?
Oui, il y a une question. Il y a une contradiction pour dire le moins.
Le moins, quand même, quoi. Hein. Alors, et encore une fois, pour un projet que lui-même est son actuel attaché parlementaire, qui fut, en fait, la députée sortante, oui, Débattue par Monsieur Perea, nous avait vendu, je parle de cette prison comme devant se réaliser dans les mois qui venaient, en fait, alors que je savais, je l'ai écrit, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, c'était tout simplement faux. C'était une proposition de campagne électorale pour se faire mousser, mais que rien n'était prévu dans la programmation de la chancelier de l'époque et actuellement que se charge. Hein, dans la première tranche, en tout cas, il y a en toute priorité une prison sur Narbonne. Donc, ouais. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, il a réagi, lui, fait Courteau, comme d'autres d'ailleurs, au dénom de la farce de Marc Aurignan. Hein,
voilà, parce que cette prison voulue par le député et le sénateur, qui, dis-tu, ne va pas se faire, les gens n'en veulent pas quand même.
N'en veulent pas quand même, parce qu'effectivement, bon, d'abord, elle est sur un terrain de la ville de Narbonne, mais qui jouxte les premières maisons du village de Marc Aurignan, et qu'à côté de la prison, il y aura en plus une aire de grand passage. Donc, ce que j'avais noté, entre parenthèses, c'est
voilà,
que
une aire de grand passage pour les gens du voyage.
J'avais noté effectivement que les mettre côte à côte, ces deux gros investissements, c'était quasiment une provocation pour les 10 gens du voyage qui, s'ils étaient informés de la chose, n'apprécieraient pas fortement de se retrouver à côté de Maton et de prison avec toute l'image que les Français, en général.
Parce qu'ils sont très délicats dans leur choix d'air de station de grand passage.
Oui, et puis quand même, la proximité des gens du voyage avec, oui, avec la, une bon, prison, oui, franchement, ça pourrait être considéré comme discriminant envers une population considérée à tort ou à raison comme effectivement ayant des comportements pas très, comment dirais-je, pas très civiques.
Oui, hein,
pour utiliser un terme.
Parce qu'il faut le rappeler, quoi. C'est le cas aussi. Il n'hésite pas à briser, casser pour s'installer.
Enfin bref, donc.
Disons-le.
Monsieur Courteau, vexé, en fait, que c'est. Donc, qu'on ne veuille pas de sa prison, qui ne verra pas le jour, sur cette portion du territoire narbonnaise, donc, est en colère, dit j'ai l'accès direct à Madame la Chancelière. Et puis, deux, c'est comme ça. J'ai pris contact avec la communauté de communes de Lézignan et ils sont prêts, effectivement, à prendre cette prison.
Oui, la grande surprise, d'ailleurs.
Oui, alors, d'ailleurs, pour ce qui me concerne, ça c'est mon point de vue personnel, j'ai tendance à dire, mais chiche, mais qu'on la mette là-bas, si tant est qu'elle voit le jour un jour, quoi. Hein. Mais surtout pas là, hein, surtout pas là. J'ai déjà expliqué pour quelles raisons j'étais opposé à ce genre d'investissement sur cette portion de territoire. Je le répète d'ailleurs parce que j'ai l'impression de le dire sans que les personnes les plus impliquées par ce genre d'affaires en termes de gestion du territoire ne s'exprime. En tout cas, bon,
oui.
Je n'ai pas entendu. Bah
là aussi,
hein.
je suis contre.
Pourquoi? Parce que le faire une prison, en fait, ou un autre investissement lourd sur cette zone, c'était créer des conditions, en fait, les premières conditions
d'un étalement urbain
de Narbonne jusqu'au Somail.
Contre lequel
ce que je trouve absurde d'un point de vue, en fait, d'aménagement du territoire et très préjudiciable à la qualité du territoire que nous cessons de vendre comme étant un potentiel touristique remarquable. Mmh. Alors, imaginons deux secondes un touriste. Venant en fait sur notre territoire,
ça marque mal
sur une portion du territoire en plus qui figure dans le périmètre d'un parc naturel régional, se retrouver en fait à la sortie de Narbonne sur une route jusqu'au Somail qui est un site remarquablement touristique avec de part et d'autre des pavillons, des lotissements, une prison, une aire du grand passage. C'est totalement absurde et j'appelle nos élus effectivement à prendre un peu de hauteur, si je puis dire, leur responsabilité et faire en sorte que cela ne se fasse pas.
Voilà. Et alors, en attendant que maintenant les Lusignanais s'opposent à la future prison dont peut-être certains ne voudront pas, revenons sur le sujet, alors plutôt entrons dans le sujet suivant. Donc La République En Marche, dont, je le rappelle, nous avons en troisième partie deux invités aujourd'hui, David Granel et Marie-Hélène Régnier. Donc La République En Marche se met en piste pour les prochaines élections, dont évidemment les municipales. Comment? C'est la question que tu poses.
Oui, c'est la question que je me posais parce que je le souvenir d'une, alors je sais pas si c'est un entretien, une interview, en fait, ou une proposition de Madame Régnier qui est en face de moi.
Oui, qui est déjà venue à ce micro il y a quelques temps.
Je sais pas si c'est pas dans la dépêche, mais ma mémoire commence à faire défaut maintenant, hein. Elle disait, il y aura des listes partout. Dans tout le département. Des listes de La République En Marche. Hein. Quelques temps plus tard, j'ai entendu le patron de La République En Marche, M. Castaner, dire il n'y aura pas forcément des listes de La République En Marche partout, mais il y aura de toute façon, et à tout le moins, il y aura des labels, en fait, hein, La République En Marche, selon les cas et selon la qualité des équipes sortantes.
C'est-à-dire des soutiens apportés, quoi.
Soutien.
Le label, je pense que c'est ça.
Évidemment, il faut entendre, il y aura soutien, mais à la condition aussi que dans les équipes sortantes qui prétendraient reconduire effectivement la gestion de leur cité, à condition évidemment qu'il y ait aussi dans cette liste des candidats, en fait, hein, des élus se revendiquant La République En Marche, on va pas.
Oui, évidemment, ça va de soi.
Ça va de soi, quoi. Hein. Donc la question se pose, puisque nous sommes à Narbonne, que va-t-on faire? Que va-t-on faire, hein, étant entendu que bon, le paysage aujourd'hui en tout cas, à gauche, est complètement éclaté, et entre la France Insoumise, le Parti Socialiste, bon, sur quelle ligne, on n'en sait rien, hein, le Parti
Sauf que ça ne veut pas dire que le Parti Socialiste au niveau national et le Parti Socialiste au niveau local sont dans la même situation, ça ne veut pas forcément dire ça.
Ah oui, sauf que je te rappelle quand même, Jean-Claude, que la tête de liste des socialistes dans le département, là, enfin pour Narbonne, ce sont les sections qui décident.
Oui.
C'est pas les associations un peu par avant, quoi, du style J'aime Narbonne, qui vont dire, mais nous, on a décidé que ce serait monsieur. Non, c'est la section limite, hein, qui diront, c'est monsieur ou madame.
Donc, enfin, là, on verra, il y aura un bras de fer.
Il y aura un bras de fer, forcément, qu'est-ce qui va sortir, on n'en sait trop rien. En tout cas, c'est très éparpillé. À droite, bon, on ne sait pas très bien non plus comment ça va se goupiller. La République En Marche, pour le moment, sur Narbonne, bon, on ne voit pas très bien de leader qui pourrait conduire, en fait, une liste. On sait très bien aussi que dans l'équipe de Didier Mouly, il y a des élus qui se sont mobilisés, qui ont fait campagne pour La République En Marche.
Oui, qui ont affirmé une volonté claire.
Quelle sera l'attitude ou la stratégie de Didier Mouly par rapport à ce mouvement? Quelle sera l'attitude
de
La République En Marche par rapport à une municipalité sortante? Affrontement, d'entrée de jeu, on est contre, en fait, c'est nul, en fait, ils ont mal géré, donc on va à l'affrontement, on crée une liste.
Donc autant de questions.
Donc autant de questions qui méritaient effectivement d'être posées. Alors la dernière quand même, est-ce que le député lui-même, puisque j'ai lu, il n'y a pas très récemment d'ailleurs, que 4 ou 5 députés, dont une de Montpellier, avaient décidé, peut-être, je n'en sais rien, que, mais après tout, ils étaient prêts à troquer leur mandat de député pour un mandat de maire de Montpellier ou mairesse, l'espèce.
Bah, c'est le cas aussi de Romain Gros à Perpignan, qui ne cache pas son intérêt pour la municipalité, il a déjà été premier adjoint, d'ailleurs.
Donc on pourrait très bien imaginer aussi, une nouvelle question, que le député de la section de Narbonne dit, ben voilà, bon, moi, j'ai fait 2 ans, puisque les élections de municipales, c'est en 2022. Enfin, voilà. Bon, 2 ans, donc, j'ai fait mon boulot, enfin, 2 ans, donc, je vais au fête municipal. Puis, une dernière question, après tout, il pourrait très bien animer une équipe de la République En Marche aux élections municipales, sans quitter son mandat de député, en étant à la 5e, 6e, 7e, 8e position, enfin, bon, peu importe.
Bien
quoi,
sûr. Hein,
et puis bon, selon le résultat.
Là, on est dans les hypothèses, maintenant, on va passer dans
une troisième partie. Et selon le résultat, bon, conserver son mandat de député ou l'abandonner et être le maire de Narbonne si j'arrive en tête.
Voilà.
Toutes les hypothèses sont à table.
On marque une deuxième pause à la suite de laquelle, j'espère, nous aurons des réponses, ou en tout cas des débuts de réponses.
Des débuts d'un début de réponses.
À tout de suite.